Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour.
Info média du jour qui braque son objectif sur un organisme de plus en plus sollicité par les téléspectateurs quand les antennes dérapent. Propos haineux, comportements sexistes, images violentes ou simplement dérangeantes. Je veux parler du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel créé en 1989. Sa mission première est d'assurer la liberté de la communication audiovisuelle et il régule au nom de l'État, mais de façon indépendante, nuance. La prochaine loi, vous le savez, sur l'audiovisuel sera examinée à l'Assemblée début 2020. Elle prévoit la fusion du CSA avec Adopi pour fonder l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. C'est l'occasion de ce matin de faire, comme on dit, bilan et perspective. Comment le CSA va gérer la transition avec la nouvelle loi? Comment l'organisme a géré et gère les nombreuses affaires Zemmour, les dérapages de Hanouna, une publicité pour les protections hygiéniques? Peut-elle tout montrer à la télé? Que de questions. Pour y répondre, je reçois Roch-Olivier Metz. Bonjour.
Bonjour Philippe Bandel, merci pour votre invitation.
Vous êtes le président du CSA. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous exprimer. Première question, évidemment, ce n'est que consultatif, votre avis, mais quel est l'avis du CSA, et même le vôtre, sur la copie rendue par le ministre Franck Riester sur la nouvelle loi audiovisuelle?
Écoutez, le Conseil vient juste de rendre son avis et son appréciation est globalement positive, pour reprendre une expression célèbre. C'est une réforme qui était très attendue. Pourquoi? Parce que notre paysage audiovisuel, vous, qui êtes un bon connaisseur, vous le savez, a été dessiné pour l'essentiel au début des années 80.
1986.
Voilà, c'est la grande loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication que... à laquelle j'ai participé comme jeune conseiller technique à l'époque au cabinet du ministre de la Culture. À cette époque-là, comme vous le savez...
Internet n'avait pas été inventé, ni les smartphones.
Il y avait une poignée de chaînes de télévision. Et donc aujourd'hui, on est dans un univers d'hyper-offre où les usages ont changé, où les vecteurs de transmission des contenus se sont modifiés.
Ayant dit que la loi est obsolète, ça ne dit pas que la nouvelle vous plaise. Qu'est-ce qui vous séduit dans cette nouvelle loi?
Écoutez, moi, ce qui me paraît très important dans cette nouvelle loi, c'est que d'abord, on vient conforter notre modèle de financement de la création, ce qui était très important puisque notre modèle était percuté par les nouvelles plateformes numériques qui étaient soumises à aucune obligation contrairement aux opérateurs historiques. Elle vient nous doter d'un régulateur moderne qui suit toute la chaîne de la création, y compris dans son volet de piratage, et c'est un texte qui vient aussi, je pense, adapter notre service public à un univers de concurrence féroce. Donc voilà, c'est un texte attendu, une fois encore. Cette réforme était réclamée par beaucoup d'autorités, les parlementaires, autorités de la concurrence, nous-mêmes, Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc c'est une étape historique qui va dans le bon sens.
Le CSA va disparaître? Ça va dans le sens de l'histoire? Je ne suis pas mécontent de poser cette question au président du CSA.
Écoutez, le CSA se transforme, puisqu'il deviendra, vous l'avez dit, l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ce qui montre bien que sa compétence sur le champ numérique s'étend. Donc c'est un régulateur dont les attributions vont s'étendre, dont le périmètre va s'étendre, et qui surtout va faire rentrer dans son champ de compétences de nouveaux acteurs. Donc c'est un moment historique pour nous.
Quels nouveaux acteurs? Et allez-vous pouvoir agir sur Internet? On reprochait certaines choses aux chaînes de télévision. Par exemple, je me souviens de ces émissions où on voyait des gens boire de l'alcool et on disait, mais sur Internet, on peut montrer toutes les images. Est-ce que le champ du CSA, ou plutôt devenu ARCOM, va s'étendre? Jusqu'à quel périmètre allez-vous pouvoir agir et intervenir?
C'est une très bonne question et c'est l'occasion pour moi de dire que l'ARCOM ne sera pas le régulateur d'Internet. Ce serait une ambition totalement démesurée compte tenu de ce qu'est Internet. On sera amené à intervenir et à réguler des plateformes de partage de contenu, notamment en matière de vidéo, dans des limites qui sont bien établies. Donc ce projet de loi va transposer une directive européenne qui est très importante, qui a été adoptée à l'automne de l'année dernière, qui est la directive Services Médias Audiovisuels. Et donc on va pouvoir faire entrer dans le champ de la régulation les plateformes de contenu de partage de vidéos, donc Netflix, les Disney et autres, qui sont en train d'arriver.
Parce que là, vous étiez un peu spectateur.
On était totalement spectateur, avec des acteurs qui agissent sur le marché national, mais sans subir les règles du marché national. Donc TF1, M6, tous ces acteurs sont soumis à des obligations, notamment en matière de financement de la production cinéma et audiovisuelle, alors que Netflix, 6 millions d'abonnés, n'est soumis à aucune obligation. Mais demain, ils le seront.
Avec quels outils?
Alors d'abord, ces directives...
C'est la loi qui va changer?
Oui, absolument. D'abord, ces directives européennes que nous allons transposer va leur imposer de participer au financement de la création, comme les autres acteurs historiques, et en même temps d'exposer dans leur catalogue de la production d'origine européenne, donc à hauteur de 30%. Et donc, nous serons dans une approche conventionnelle avec eux, comme on l'est avec les acteurs historiques. Et donc, on leur imposera ces nouvelles obligations.
Pardon de vous poser cette question-là. Allez-vous avoir les moyens de vos ambitions? Je veux dire, à quoi je fais référence? C'est la loi sur les droits voisins, qui est une directive européenne, a du mal, c'est un euphémisme, à être appliquée ici en France, puisque, par exemple, Google, mais d'autres comme Facebook, refusent de payer quoi que ce soit aux éditeurs de presse.
C'est tout à fait l'un des points que nous exprimerons dans notre avis, c'est que le régulateur, bien évidemment, doit être doté des moyens de son ambition, si je puis dire, pour pouvoir mettre en œuvre ce que le législateur va lui demander. Mais je vais vous dire là-dessus, moi je suis plutôt confiant. Je rencontre beaucoup ces acteurs, beaucoup ces plateformes et leurs responsables depuis que j'ai pris mes fonctions. Je pense qu'ils seront légalistes, parce que c'est une réglementation européenne qui ne s'appliquera pas qu'en France, qui s'appliquera sur le continent, au sein de l'Union. Et d'autre part, je pense que c'est leur intérêt économique, tout simplement.
Quel exemple, qu'est-ce qui pourrait changer pour les plateformes concrètement?
Ce qui va changer concrètement, c'est que 30% du catalogue de chacune de ces plateformes doit comporter des œuvres européennes. Et donc, pour les producteurs français, c'est une opportunité formidable. Vous savez, sur les 10 séries qui ont eu le plus de succès l'année dernière, en France, 9 d'entre elles étaient des séries françaises. Donc, quand vous êtes le patron de Netflix, vous avez intérêt à avoir sur votre catalogue de la production française, avec des acteurs français, des séries françaises.
Mais alors, pardonnez-moi, mais pourquoi ils ne le font pas si ça marche si bien ?
Écoutez, ils vont le faire, ils commencent à le faire. Netflix, comme vous le savez, est en montée en puissance sur le territoire français. Le bureau parisien de Netflix est en train de croître et embellir. Il y a beaucoup de projets de séries qui sont en cours de lancement. Et donc, c'est une chance pour la création française. Donc, je crois que ces plateformes joueront le jeu. En tout cas, pour notre part, on sera bien évidemment attentif à ce qu'elles le fassent.
Alors, c'est une spécificité française. La loi sur l'audiovisuel a pris du retard. Elle sera examinée à l'Assemblée lors du premier semestre 2020. En attendant, la nouvelle réglementation pour désigner, ce sera en 2022, le futur président de France Télévisions. Le CSA va assurer la phase de transition pour le prochain mandat qui va donc démarrer en août 2020. C'est un peu complexe. Concrètement, comment ça va se passer?
Ça va se passer de façon très simple. Donc, le mandat de la présidente actuelle de France Télévisions vient à échéance fin août 2020.
Définir note.
Nous sommes tenus, compte tenu des termes de la loi, de désigner le nouveau président entre 3 mois et 4 mois avant la fin du mandat, pour qu'il y ait une zone de chevauchement. Donc on va lancer un appel à candidature, puisque c'est la loi qui le prévoit, vers la fin du mois de février 2020. On recevra les candidatures, on auditionnera les candidats et on choisira le prochain président de France Télévisions avant le mois de mai de l'année 2020.
Ça sera la dernière fois pour le CSA qui ensuite va perdre ce pouvoir de désigner le futur boss de la télé publique. Est-ce que l'indépendance y gagne au change selon vous?
Écoutez, sur le mode de nomination qui est retenu dans le projet de loi, il répond tout à fait au canon posé par le Conseil constitutionnel de garantie de l'indépendance de l'entreprise. Donc ça, j'ai pour ma part aucun doute. Deuxièmement, pour ma part, j'ai pas de regret que le Conseil supérieur de l'audiovisuel perde cette compétences, puisqu'en quelque sorte, on était un peu jugé parti sur ces sujets en nommant d'une part et en contrôlant d'autre part l'activité.
Vous étiez l'entraîneur, vous étiez le sélectionneur et l'arbitre en même temps.
Exactement. Et puis, troisième, moi je pense que vraiment, une fois encore, le mode de nomination est solide, garantit l'indépendance. Le seul point sur lequel je souhaite insister, et on le dira dans notre avis, c'est que l'indépendance du service public, c'est aussi sa trajectoire financière. Et si on veut un service public fort, si on veut un financement de la création fort, il faut préserver un service public fort. Et donc ça veut dire qu'il est la ressource nécessaire pour porter son ambition.
Et il faut que la ressource soit actée, pérennisée dans les textes de loi?
Il faut, à mon sens, en tout cas c'est la position du Conseil supérieur de l'audiovisuel, que le service public garde une recette affectée qui est une garantie de son indépendance et de son niveau de financement. Et donc nous le dirons dans notre avis.
Après la pause, le CSA et les dérapages, ça fait partie de votre travail, Zemmour, Hanouna, Booba et même la pub Nana, peut-on tout dire à la télé?
La suite de l'infomédia du jour, c'est dans un instant sur Europe 1. Ce matin, dans l'infomédia du jour, on parle du fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel, un organisme de plus en plus sollicité par les téléspectateurs, surtout quand les antennes dérapent. On en parle avec le président du CSA, Roch-Olivier Maistre, Philippe.
Les sujets ne manquent pas. On va commencer par Éric Zemmour. On ne va pas revenir sur toutes ces déclarations, monsieur le président. Déclarations qui ont fait sauter le standard, comme on disait à l'époque du CSA. On va voir comment le CSA a procédé après l'intervention polémique du polémiste, pléonasme, lors de la convention de la droite organisée, c'était le 28 septembre dernier, par des proches de Marion Maréchal. Discours diffusé en direct ce jour-là sur LCI. Éric Zemmour s'en était notamment pris aux immigrés comparés à des colonisateurs et avait affirmé que tous les problèmes de l'immigration sont aggravés par l'islam. Fin de citation. Vous avez vu ce passage en direct?
J'avais regardé cette émission en direct, effectivement. C'est l'occasion pour moi, peut-être Philippe Vandel, de vous dire un peu comment on procède dans ces affaires, parce qu'on est souvent interpellé sur les réseaux sociaux et on voudrait qu'on réagisse au quart de tour.
J'allais vous demander là, est-ce qu'il y a eu des saisines
Bien sûr, il y a eu des saisines très rapides, ça vient très vite. Dès qu'une émission est diffusée, il suffit de se connecter sur le site du CSA, il y a un bouton qui permet de signaler immédiatement. Notre méthode, notre temps, le temps de régulation, c'est pas le temps des réseaux sociaux. On instruit chaque fois ces sujets extrêmement sérieusement, on visualise les images, on les revisualise, on regarde le contexte dans lequel elles ont été diffusées, ce qui a été dit avant, ce qui a été dit après, les reprises. On fait une analyse juridique très fine au regard des obligations qui incombent aux éditeurs. On auditionne les parties. Là, on a convoqué les équipes de LCI pour entendre leur point de vue, entendre leurs explications.
Vous avez entendu Éric Zemmour également ?
On n'a pas entendu Éric Zemmour, puisque nous, on traite de la responsabilité des éditeurs. Et puis ensuite, on délibère de façon collégiale. Je rappelle, le CSA est composé de 7 membres et toutes les décisions qui sont prises sont des décisions collégiales. Donc ça prend un petit temps qui est raisonnable, généralement environ un mois. C'est quand même beaucoup plus rapide que la justice. Mais en tout cas, on ne statue jamais à chaud. Et on ne statue jamais a priori. Donc le CSA n'est ni un censeur, ni un gardien d'un ordre moral, ni non plus, ce ne sont pas des agents d'une police de la pensée, comme certains pourraient l'exprimer. Deuxième remarque sur ce discours, ce que nous avons pensé dans le cas d'espèce, c'est qu'il fallait réaffirmer trois choses. La première, c'est que celui qui s'exprime dans l'espace public peut engager sa responsabilité. C'est d'abord lui qui engage sa responsabilité. Et quand vous vous exprimez pendant 30 minutes, dans les termes qui ont été exprimés, dont certains étaient très proches de ce qui avait conduit la Cour de cassation à condamner son auteur le 17 septembre dernier, eh bien nous avons estimé qu'il fallait voir si cette responsabilité devait être engagée dans le cas d'espèce. Et donc on a fait quelque chose qui est sans précédent au CSA, puisqu'on a utilisé l'article 40 du Code de procédure pénale et on a saisi le procureur de la République et on a transmis au procureur de la République une série des saisines, notamment d'autorités publiques, que nous avions reçues. Et on verra ce que la justice décidera, on verra ce que le procureur décidera de la suite. Deuxièmement, on a mis en garde très fermement LCI, parce que nous avons estimé que dans le cas d'espèce, LCI avait utilisé un format très inadapté à la situation. C'est sans précédent d'accorder une tribune de 30 minutes à une personnalité qui n'est pas une personnalité politique, qui n'est pas un élu de la République.
Je vais me faire l'avocat d'LCI. Ensuite, il y a eu une émission dans laquelle ils ont fermement condamné et décrypté les propos d'Éric Zemmour.
Mais il n'y a pas eu de contradiction en direct. Donc c'est une chose d'avoir une émission de plateau où le journaliste réagit immédiatement, où le contradicteur réagit à chaud. C'est autre chose de donner une tribune sur 30 minutes. Et donc on a mis fermement en garde LCI en disant que ce format, et d'ailleurs LCI a reconnu publiquement que ce format était inadapté. Et troisièmement, on a fait un appel à la responsabilité des médias. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, dans ce pays, la liberté d'expression, Dieu soit loué, est très protégée. C'est une valeur constitutionnelle. Elle trouve sa source dans l'article 11 de la déclaration de 1789. La liberté éditoriale est entière. Le droit de polémique, l'humour, la dérision, tout ça a sa place dans le débat public. On est un vieux pays qui aime le débat. C'est un pays qui aime la politique. Mais en même temps, la loi fixe des limites et donc on ne peut pas accepter d'aller sur le terrain de la haine ou de la discrimination.
Vous avez mis en garde les chaînes, vous pensez qu'ils vont suivre cette mise en garde ? Parce qu'en même temps, on ne peut pas nier que ces polémistes font de l'audience et les chaînes recherchent l'audience.
Bien sûr, mais je pense qu'il faut faire attention. On est dans une période où la montée des intolérances s'exprime.
Pardonnez-moi, Monsieur le Président, je sais qu'il faut faire attention. Est-ce que vous pensez que les chaînes vont suivre vos mises en garde ?
Écoutez, moi je fais confiance aux acteurs. C'est des acteurs qui sont inscrits dans notre paysage depuis longtemps, qui sont dirigés par des autorités responsables, qui connaissent très bien la réglementation qui est en vigueur. Alors c'est vrai qu'on a une particularité sur les chaînes d'information, c'est qu'on a une concurrence frontale de 3 chaînes privées sur le même marché publicitaire avec 2 chaînes qui perdent de l'argent, comme vous le savez, et qui donc sont un peu dans la course à l'échalote, si je puis employer cette expression. Ouais. D'où ce principe d'appel à la responsabilité. Je constate qu'après notre appel à la responsabilité, par exemple, l'émission de M. Zemmour sur CNews, la chaîne a fait le choix de la diffuser en léger différé.
Par sécurité. Autre sujet, je vous interromps parce que les sujets ne manquent pas. Un des abonnés aux plaintes que vous recevez au CSA, c'est Cyril Hanouna. Dernière affaire en date, c'était la semaine dernière. Il a soutenu sur le plateau son copain Booba, le rappeur, qui avait insulté sur Instagram l'écrivaine Zindem El Razaoui. Auparavant, elle avait déclaré sur CNews, je vais citer les phrases exactes pour qu'on sache de quoi on parle, quand vous avez un guet-apens de 100 barbares, la police américaine aurait tiré à balles réelles. Et là, Booba avait répliqué sur Instagram, pourrissons la vie de cette grosse M puante, en citant le compte de Zineb El Razaoui. Alors, l'épisode suivant, c'est sur C8, c'est là où j'aimerais avoir votre avis, Monsieur le Président, on va entendre les propos de Cyril Hanouna.
Je vois Booba, là, et je lui fais un gros big up Booba, parce que la vidéo qu'il a faite, là, sur la ouf, là, qui s'est exprimée, là, Zineb, Zineb, bravo, Voilà, bravo mon...
Elle est quand même violente, hein, ça.
Oui, mais bon, violente, c'est
ouais, mais bon, ce qu'elle avait dit, c'est très grave, je vous le dis.
Pourrissons l'avis de cette grosse M puante. De nombreuses plaintes auprès de vos services sont arrivées. Ces plaintes visaient qui ? Hanouna, Booba ou Zineb ou les trois ?
Écoutez, ça porte sur les trois, et donc nous sommes saisis, et donc nous allons statuer en suivant la procédure que j'ai rappelé tout à l'heure, et donc comme il se doit, la loi me fait interdiction de m'exprimer sur des affaires sur lesquelles on est saisi tant qu'on n'a pas statué, donc on statuera d'ici quelques temps.
Un mot sur cette pub pour des protections hygiéniques qui a fait couler beaucoup d'encre, puisqu'on voit des représentations très réalistes du sexe féminin. Vous avez reçu, si je suis bien informé, près d'un millier de plaintes, et pourtant le CSA n'a pas bronché. Vous n'avez pas été choqué par cette campagne ?
Écoutez, c'est une campagne qui est passée devant l'autorité de régulation de la publicité, donc l'autorité de régulation professionnelle, qui n'a pas mis d'objection. Nous sommes gardiens de l'image de la femme, d'éviter que les images dégradantes soient diffusées sur les médias audiovisuels. Nous avons estimé que dans le cas d'espèce, ce n'était pas le cas. C'est une publicité qui a pu surprendre par sa forme. Mais en même temps, on est dans une société qui a évolué. Et la publicité s'adapte aussi aux évolutions de la société et le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui aussi.
Il me reste une minute pour parler d'une passe d'armes plus ancienne qui est assez étonnante. Là encore, c'est une première. On revient à Cyril Hanouna. Il y a eu une affaire qui vient de connaître un dénouement inattendu avec une décision de justice en sa faveur. Ça avait commencé, je vais essayer de résumer, par un canular morbide qui piégeait l'animateur Mathieu Delormeau de l'émission d'Hanouna. Le CSA avait sanctionné la chaîne, mais le Conseil d'État s'est montré moins sévère en annulant la sanction. Et résultat, le CSA, votre organisme, va devoir indemniser à hauteur d'1 100 000 euros la chaîne C8 qui, elle, réclamait 4 millions d'euros. Est-ce que vous allez payer ?
Écoutez, on est dans un état de droit. La décision du CSA sanctionnant cette chaîne, pour les raisons que vous venez d'annoncer, a été annulée par le Conseil d'État. La conséquence automatique, c'était bien évidemment un contentieux indemnitaire qui a été engagé par C8. C8 demandait beaucoup plus d'argent que ce qui devrait être accordé. On attend la décision probablement pour aujourd'hui. Et donc, on paiera.
Vous paierez. Exactement. Vous ne ferez pas appel. La décision tombe à quelle heure ?
Elle est définitive, la décision. Donc, je pense qu'elle tombera dans la journée, vraisemblablement.
D'accord. On l'entendra, cette décision, dans le journal de Cyril Lacarrière, le journal des médias. Merci beaucoup.
C'est une conséquence automatique de l'annulation par le Conseil d'État de notre décision il y a 2 ans.
Merci, Roch Olivier Maes. Je rappelle, vous êtes le président du CSA pour quelques mois encore, avant de diriger...
Pour quelques années encore, finalement.
Quelques années, pardon, avant de diriger l'ARCOM. Merci d'avoir été avec nous.